France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, trois romanciers qui explorent les vertiges de l'identité.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord Philippe Besson pour son 25e roman, Une pension en Italie, publié chez Julliard dans La torpeur de la Toscane de 1964. À San Donato in Poggio, l'auteur nous raconte le foudroiement amoureux de Paul, un professeur d'italien dont la vie bascule après sa rencontre avec Sandro, le cuisinier de la pension. C'est une enquête sur un secret familial longtemps tu, mené 50 ans plus tard par un petit-fils désireux de briser l'omerta. Nous resterons en Italie, mais cette fois dans le silence nocturne de la Galleria Borghese à Rome, avec Eric Reinhardt pour L'imparfait dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. L'écrivain s'est laissé enfermer une nuit, habité par l'obsession de dormir aux côtés de la statue de l'Hermaphrodite du sculpteur italien Le Bernin. À ce récit d'errance muséale s'entremêle un conte contemporain situé au Puy-en-Velay, mettant en scène la rencontre entre Bruno, un dentiste solitaire, et Gloria, une chanteuse intersexe. Et c'est surtout un très beau livre sur l'art qui donne envie d'aller ou de retourner à la Villa Borghese, admirer les œuvres dont il parle. Et en fin d'émission, nous quitterons l'Italie pour la France, à Paris, quartier Saint-Sulpice, avec Yasha Curis. L'auteur que les lecteurs ont connu sous le pseudonyme de Sacha Sperling reprend son véritable patronyme pour signer son 6e roman. Et puis ils sont allés danser chez Gallimard. Ce livre est une chute à deux, inspirée d'un fait divers sanglant survenu en 2010, l'assassinat du journaliste Bernard Mazières. Le coupable est vite arrêté, il s'agit d'un jeune marginal qui ravitaillait en drogue certains enfants de la bourgeoisie du quartier. Et son commanditaire n'était autre que son propre fils, âgé de 17 ans à l'époque. Yasha Curis décrit dans son livre avec une précision chirurgicale l'errance de ces deux jeunes hommes perdus, hantés par des rapports paternels conflictuelle et la dérive d'une certaine jeunesse dorée. Trois auteurs, donc trois décors, mais une même quête, celle de la vérité sous le vernis des apparences. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Philippe Besson, Eric Reinhardt, Yasha Curis, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Alors dans vos livres, les lieux sont des personnages. Philippe et Eric, vous avez choisi l'Italie comme écrin. Pour vous, Philippe Besson, c'est la Toscane de 1964, un territoire familier propice à l'insouciance mais aussi à l'explosion des mensonges. Pour vous, Eric Reinhardt, c'est la Galleria Borghese à Rome, un vaisseau spatial déconnecté du temps. Dans la collection Ma nuit au musée, Eric Reinhardt, vous aviez le choix. Vous pouviez aller partout. Pourquoi avoir choisi l'Italie et pourquoi la Villa Borghese?
Ça m'a pris du temps de trouver le bon lieu. Il ne faut pas se tromper. D'abord parce que je ne suis pas à l'aise avec les textes de commande. J'ai toujours besoin, pour pouvoir écrire, que cela relève d'une vraie nécessité profonde et intérieure, quelque chose d'impérieux qui s'impose à moi, une urgence. Et donc, j'ai cherché, et puis l'idée m'est venue de conjuguer, comme je sais et aime le faire, de l'innarrative, celle d'un conte fantastique que j'avais en tête depuis des années, qui devait à un moment devenir un livret d'opéra, et puis le récit de ma nuit. Et c'est ce conte fantastique où, en effet, l'un des personnages se trouve être le personnage mythologique lui-même d'Hermaphrodite aujourd'hui, au Puy-en-Velay. C'est cela qui m'a donné l'idée de la Galleria Borghese, où je savais qu'était l'une des répliques de la statue de l'Hermaphrodite endormie. Il y en a une autre au Louvre. Et là, je me suis dit, mais oui, il faut absolument que j'entremêle ces deux lignes et que l'une soit, que les deux soient en miroir l'une de l'autre.
C'est vrai que vous auriez pu vous contenter de l'histoire, de votre nuit au musée simplement. Et c'est là où on sent aussi le romancier, c'est-à-dire que vous aviez envie de mélanger aussi
de tresser ces deux lignes. D'abord parce que j'ai relu complètement par hasard le synopsis de ce livret d'opéra qui datait de 2016 et qui avait été abandonné. Je l'ai retrouvé par hasard ou non, d'ailleurs, dans mon ordinateur. Et le lisant, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Alors je me suis dit, je vais en faire un petit conte fantastique pour Gallimard. Et puis j'avais cette demande de Manu au musée. Alina Gurdiel, la directrice de la collection, me l'avait proposé. J'avais dit oui, parce que ça ne se refuse pas.
Philippe Besson, alors vous, ce n'est pas votre premier roman italien?
Non.
L'Italie est pour vous un territoire intime. Vous avez même placé en exergue de votre livre la phrase d'Edward Forster. On ne vient pas en Italie chercher des suavités, on vient y chercher la vie. Qu'est-ce que l'Italie a de si particulier et pourquoi? Et je vous pose la question de manière totalement objective. Je ne vous demande pas à vous ce que l'Italie évoque. Pourquoi l'Italie, qu'est-ce que ce pays a de particulier?
D'abord, l'Italie, je l'ai découverte quand j'avais 20 ans. Peut-être que ça joue quand même. C'est un émerveillement qui m'est resté. Il y a des choses comme ça, on entre dans un pays qu'on ne connaît pas, où je me rendais un peu par hasard, et j'en suis revenu autre. Et j'ai eu l'impression d'une familiarité, d'une intimité avec cette terre-là, avec cette air-là, avec cette atmosphère-là qui m'a décontenancé. Et ça m'est resté, ça ne m'a jamais quitté. Donc quand je me suis mis à écrire des livres...
Pardon ? Vous savez pourquoi ?
Je ne sais pas, je pense que ça tenait à la lumière, ça tenait à... C'était un été caniculaire déjà. Ça tenait à ce mélange de l'histoire et d'une espèce de modernité vulgaire qui me plaisait énormément. J'aimais aussi bien les statues, les églises que les garçons qui pétaradaient sur leurs scooters. Et ça m'a plu, oui, ça ne m'a jamais quitté. Donc j'ai eu envie de retrouver ça. Donc j'avais déjà écrit effectivement sur l'Italie, notamment un livre qui s'appelle Un garçon d'Italie, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose...
Justement, cette atmosphère, elle est quand même assez...
Il y a quelque chose là de mystérieux, d'ambigu, d'ambivalent dans ce livre qui correspondait bien aussi à la situation et au lieu, à la géographie, parce que je trouve aussi que c'est un endroit qui porte à l'ambivalence et à l'ambiguïté. Et puis j'avais envie de retrouver le soleil. C'est-à-dire que je sortais de deux textes qui étaient quand même particulièrement plombés, particulièrement sombres, et voilà, quand on écrit, à un moment, on a envie de revenir à la lumière. Et en fait, je me suis dit, quoi de mieux que de retourner en Italie, en été, sous le soleil, et voilà, parce qu'on s'installe à la table d'écriture pendant des mois, quand même, et donc c'est plutôt bien d'être en Toscane chaque matin, chaque jour, pendant des mois. Choisir son voyage. Donc voilà pourquoi l'Italie.
Yasha Curis, vous n'avez pas choisi l'Italie. Vous avez choisi Paris, rive gauche. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez choisi, puisque c'est effectivement une histoire inspirée d'un fait divers qui s'est déroulé dans le 6e arrondissement. Et on sent que, quand même, que cette histoire n'aurait pas pu exister sans ce décor.
Cette affaire s'est passée à quelques rues de là où je vivais à l'époque. J'ai tout de suite pensé que ce quartier qui a beaucoup de particularités, qui a beaucoup de côtés ridicules, beaucoup de côtés attendrissants, serait un personnage du livre parce que c'était une histoire qui ne pouvait se passer ailleurs. Il y avait dans ce quartier, on y reviendra, mais quelque chose d'une ouverture d'esprit, ou enfin en tout cas d'un semblant d'ouverture d'esprit qui permettait à quelqu'un comme un de mes personnages, le voyou, d'être accepté, de pouvoir intégrer cet univers de jeunes riches. C'était important pour moi d'expliquer ce phénomène-là et comment ce phénomène-là pouvait s'appliquer à cet endroit très particulier du monde, la rive gauche, 6e, Paris.
C'est intéressant parce que vous avez trois livres sur l'ambivalence, finalement. Et j'ai vu un autre point commun entre vos livres. Ils répondent à une sorte de quête identitaire à travers des figures gemellaires. Rick Redhardt parlait de miroir. Yasha Curis, je le disais en introduction, vous avez repris votre véritable patronyme pour ce livre, après avoir usé d'un pseudo. Et puis dans votre roman, il y a cette relation miroir entre vos deux personnages, Léo et Jim. Vous dites que Jim est l'ombre de Léo. Cette question du double, elle revient souvent. Et vous, alors, Eric Reinhardt, vous explorez le trouble à travers, vous en avez parlé un petit peu, la statue de l'hermaphrodite, qui est un être hybride par définition, homme et femme à la fois. Et votre personnage de David, le dentiste, elle vous le dit, Bruno. Un double de vous-même.
Bruno.
Bruno, pardon. Un double de vous-même. Je parlais d'identité, mais finalement, tout au long de votre livre, on sent que l'unicité, l'uniformité vous ennuie.
Oui, et puis j'aurais très bien pu expliquer pourquoi je voulais passer la nuit avec Hermaphrodite, pourquoi j'avais choisi la Galeria Borghese, pourquoi cette statue et le personnage mythologique d'Hermaphrodite me fascinaient, m'intéressaient, mais je préférais que ce soit fait par l'entremise d'une fiction. C'est-à-dire que moi, on me voit agir dans le musée, on me voit ressentir des choses en regardant les différentes œuvres, les statues, mais pour ce qui est de l'Hermaphrodite, c'est la ligne narrative de fiction qui prend en charge tout ce que cela représente pour moi d'avoir le désir de m'approcher de cette statue d'Hermaphrodite et de dialoguer presque silencieusement avec elle, comme si je me connectais à la mémoire du monde et presque si je m'enfouissais avec elle dans la nuit des temps.
Vous aviez besoin et du personnage de Bruno à ce moment-là
pour éclairer ce que je vivais et les raisons pour lesquelles... C'est un peu comme si j'explorais mon propre inconscient, mais par une fiction. Et c'est en cela que Bruno est une sorte de double de moi-même. Il me représente.
Philippe Besson, vous, votre narrateur enquête sur un grand-père dont l'identité profonde a été étouffée. par l'omerta familiale, un grand-père qui vous ressemble d'ailleurs. Vous le dites clairement, hein, vous parlez de gémellité, d'une étrange gémellité. Est-ce que vous pensez que les secrets de famille reviennent toujours, d'une manière ou d'une autre ?
Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de généralité à faire, mais c'est vrai qu'il y a des secrets de famille qui hantent beaucoup, qui sont comme des ombres portées, comme des obscurités. C'est toujours étrange quand on vous présente un album de famille dans lequel il manque des photos. Et vous dites pourquoi ? Pourquoi il y a là un blanc ? Pourquoi il y a un trou noir ? Pourquoi quand je pose des questions, on ne me répond pas. Bon. Et évidemment, quand vous tirez le fil des secrets de famille, vous le faites aussi pour aller à la quête de vos origines et à la quête de votre propre identité. C'est-à-dire, vous comprenez qu'on vous a privé d'une hérédité, d'une filiation, de quelque chose, et vous voulez comprendre. Donc le narrateur, effectivement, il va chercher ce grand-père en se disant peut-être que c'est un peu de moi que je vais chercher aussi là. Je suis très très sensible à cette idée-là, qu'effectivement on répète une histoire dont on est soi-même l'héritier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est produit avant nous, avant que nous existions, dont on ne sait presque rien. Et puis là, le narrateur, il pose des questions, on ne lui répond pas, on esquive. Alors il va commencer à mener son enquête parce que voilà, il se rend sur place, il pose des questions, il cherche des indices et en faisant ça, évidemment, il sait bien qu'il va trouver quelque chose qui fait écho à sa propre intimité. Et ça, ça m'intéressait d'aller sur ce chemin-là. Voilà. C'est ça que j'ai voulu faire, oui.
Philippe Besson, Éric Reynard, Tia Chakuris, derrière vos livres, il y a la question sexuelle, et plus précisément celle de la fluidité des genres. On en parle quand on revient, mais avant ça, on écoute Des mythos de Théodora. I like the way you move, I like the way you dance.
Avec lui, viens voir, oui, y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou, cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas, belle maison taillée. Je l'excès déjà sans carrière. Cette chip non, bah ouais, c'est carré. Comme maman, j'aime les pierres taillées. Si je trouve l'amour sur ma route, je lui dirai d'aller se faire foutre.
Besson, votre roman se déroule en 1964, à une époque où l'homosexualité est vue comme une tare, un péché ou un crime. Vous-même, vous évoquez les insultes subies dans la cour de récréation à 15 ans. J'ai lu même plusieurs interviews où vous en parliez. Est-ce que le choix de ce cadre aussi, de cette histoire, vous permettait de souligner aussi la fragilité de tout cela encore aujourd'hui ?
Oui, l'homophobie, elle n'a pas disparu. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ce terme d'homophobie un peu impropre, parce que c'est pas une phobie, c'est pas une peur, c'est une exécration, c'est une détestation, c'est une haine des homosexuels, c'est pas une peur. Les gens qui manient l'insulte, l'injure, les coups à l'égard des homosexuels sont pas des gens qui en ont peur, c'est des gens qui veulent leur faire mal, les blesser, les éliminer. C'était évidemment terriblement vrai dans les années 60, puisque je rappelle qu'en France, c'était encore pénalisé, puisque la dépénalisation de l'homosexualité, elle date de 1982. Je rappelle aussi que jusqu'en 1990, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale par l'OMS. 1990, hein. Je n'ai pas dit 1890, 1990. Ouais. Donc, on est dans ce contexte-là. Aujourd'hui, les choses se sont évidemment améliorées. Il y a une acceptation beaucoup plus grande, il y a une visibilité beaucoup plus grande des choses. La situation est aujourd'hui beaucoup moins dramatique qu'elle ne l'était, évidemment. Mais il reste des poches d'homophobie, il reste des déclarations qui sont absolument abjectes, il reste des actes qui sont évidemment répréhensibles. Il reste dans ma mémoire d'il y a 10 ans, 1 million de gens dans la rue défilant avec des serre-têtes et des cols Claudine et des enfants blonds disant « mais s'ils veulent épouser leurs compagnons, ils peuvent aussi bien épouser leurs chiens ». Et ça, nous l'avions le matin, le midi et le soir à la télévision et à la radio. Je n'ai rien oublié. Moi, je ne pardonne pas, en fait. Quand on regarde les années 60 avec le recul que nous avons aujourd'hui, on voit cette période comme une période d'émancipation, d'insouciance, ce qu'elle a été aussi. C'est vrai que ces années 60, c'est les années de... Voilà, c'est les 30 glorieuses qui commencent pour la France, etc. Bon. Mais pour autant, c'est aussi une époque qui est marquée par ce qui l'a précédé. C'est-à-dire, on sort de la guerre, de la reconstruction. Il y a encore, et c'est vrai en Italie, des micelles dans les commodes des chambres. Il y a des Christs accrochés au-dessus des lits, il y a des traditions, il y a des normes, il y a des règles. Et donc, effectivement, Paul, le personnage, il est confronté à ça. C'est quelqu'un qui a été élevé dans cette idée que ses inclinations secrètes, ses goûts tus, censurés, doivent continuer d'être tus et censurés. Il a compris à l'âge de 20 ans ou de 18 ans où portaient ses goûts, mais il se dit « j'ai pas droit à ça ». Donc, il construit une vie normale. Il la construit d'ailleurs avec une forme d'authenticité, de sincérité. Il a envie de réussir sa vie de mari et de père, et d'une certaine manière, il l'a réussi, il est un bon mari, d'une certaine manière, enfin, et en tout cas, il est un très bon père, et puis tout d'un coup, il est rattrapé par quelque chose qui lui tombe dessus, qui est la rencontre avec quelqu'un, c'est-à-dire que là, il est confronté à la révélation de ce qu'il est profondément, et à l'idée de se dire, là maintenant, est-ce que je décide, quel choix j'ai à faire. Est-ce que j'ai un choix à faire et quel choix je fais? Il en a déjà fait des choix sacrificiels d'une certaine manière, puisqu'il s'est censuré.
C'est qu'à un moment, il y a le mot pulsion. Vous écrivez le mot pulsion et en fait, effectivement, c'est pas une pulsion.
Non.
C'est vraiment.
C'est sa vérité.
C'est lui, c'est sa vérité.
C'est sa vérité, c'est son identité qui se révèle. C'est à un moment, il est face à je suis cet homme-là. Et donc, la question qui se pose, c'est plus de se censurer, c'est de dire est-ce que je m'élimine en tant qu'homme et en tant qu'individu et que je continue de jouer un rôle, de jouer une fonction, d'être ce qu'on attend de moi, ou au contraire, est-ce que j'assume l'identité qui est la mienne, profonde, et est-ce que je pars vers une forme d'aventure, mais aussi vers, donc, du coup, une forme d'opprobre, de honte, de déclassement, ce qui
était une forme arriver, de courage.
Le problème, c'est ça aussi, ça nous ramène aussi à ce qu'on dit sur le secret de famille, c'est que quand vous faites une chose comme ça, et que tout est enterré après, parce qu'il va y avoir une explosion de la famille, vous vivez avec l'idée que vous avez commis des dommages collatéraux, c'est-à-dire que vous avez pris le choix de la liberté, mais que ça emporte des conséquences terribles sur la suite. Mais,
avec une culpabilité qui est
terrible, bien sûr, mais vous avez le choix entre deux sacrifices. Oui.
Alors dans l'émission, on reçoit chaque semaine des libraires. L'un d'eux vous a lu, Philippe Besson. Il s'agit de Mike Viennot de la librairie Mediapol à Montréal. Bonjour Mike.
Bonjour.
Alors Mike, vous avez aimé, enfin vraiment aimé, non, adoré, le roman de Philippe Besson qui vous a fait voyager dans le secret de sa famille.
Oui, bonjour Lilia. Oui, Philippe Besson. On entre dans vos romans plein d'envie, de curiosité, d'ardeur et on en ressort tout remué, ému, mais avec cette si forte impression que toutes ces histoires, elles méritaient d'être écrites. Vous m'avez fait pleurer dans cette pension italienne, pleurer de tristesse et pleurer d'émerveillement. Si le chaud soleil italien m'annonçait une farniente de lecture, je crois avoir été frappé par un éblouissement. Ébloui de la simplicité si bien fabriquée de votre écriture, qui jette des coups de soleil sur les ondes d'ombre encore trop camouflées, et frappé sans cesse, encore et encore, par votre manière de jouer avec la fiction pour que la réalité demeure un récit.
Vous aviez presque l'impression d'être l'un des pensionnaires, Mike.
Ah oui, Lilia, j'étais dans cette chambre de la villa, sans me sentir voyeur, juste témoin. J'étais dans ce champ de coquelicots, atterré, déboussolé. Le passé des familles est truffé de trous noirs qui obscurcissent leur présent. Certains préfèrent vivre cette obscurité dans un aveuglement qui gruge. Pour votre part, vous avez voulu lui rendre la lumière. au risque de révéler des contours indéfinis, au risque de dévoiler des surfaces rugueuses et froides, mais qui prennent de la chaleur au contact des sentiments vrais, exposés, comme la pierre de la villa qui se réchauffe au soleil ardent. Mais vous le prouvez encore ici, dans ce superbe roman touchant et sincère, qu'il y a ce qu'on a voulu raconter dans les familles. Il y a toute une mythologie familiale loin de la réalité. Dans cette pension de famille, vous entremêlez les deux, ce que l'on a su et ce qui s'est tu. Merci pour ce grand-père.
Merci, merci, grazie, grazie mille. Je suis très très touché par ce que vous venez de dire, évidemment. Très très touché, merci beaucoup.
Et Mike, vous aviez des questions pour Philippe Besson.
Oui, ma première question, Philippe Besson, raconter sa famille, c'est inévitablement ouvrir un livre secret avec des surprises qui vont déborder. Quel est votre code moral pour jouer sur le récit et intégrer la réalité tout en vous assurant de ne trahir personne?
En fait, l'idée, c'est que j'essaie d'être toujours sur une ligne de crête entre la fiction et l'autofiction, entre le récit et les choses que j'invente. Dans cette histoire-là, il y a des choses, vous avez comprises, qui me sont très, très familières, très proches. Et en même temps, je voulais y injecter le romanesque, je voulais raconter une histoire. Je fais dire à un moment au narrateur, il faut raconter comme on raconte une histoire. Parce qu'il faut aussi emporter les gens dans cette histoire-là. Il faut que les gens puissent s'y reconnaître, qu'on tend un miroir. Un livre, c'est un dialogue entre l'écrivain et son lecteur, sa lectrice. C'est l'idée de dire, je vous raconte quelque chose, mais vous allez trouver quelque chose de vous dans ça. Ça suppose de sortir du cadre strict de sa vérité personnelle, ça suppose de sortir du cadre strict du récit pour rentrer justement dans celui de la littérature, en tout cas du roman et de l'histoire qu'on raconte. Donc moi je fais ça, et donc je m'amuse à transposer, transformer, déporter, j'injecte une mémoire qui n'est pas la mienne, je joue avec mon imagination, et puis après je vais sur des fausses pistes. Ça m'amuse beaucoup, parce que c'est aussi un jeu l'écriture, c'est fondamentalement un jeu. Et donc, je me perds dans tout ça pour me trouver aussi, mais aussi pour égarer ceux qui chercheraient une vérité trop précise.
Merci beaucoup, Mike. La question de la trahison, elle est intéressante, parce que il faut peut-être accepter, il y a chaque risque de trahir un peu quand on écrit.
Ah bah, ce n'est qu'une trahison, oui. En même temps, il y a quelque chose d'une absolue sincérité et d'une absolue trahison. C'est de toute façon, moi, les livres que j'ai écrits, j'ai toujours été en face de ce paradigme. Trahir forcément, parce qu'à un moment donné, il faut prendre les libertés nécessaires, comme vient de le dire Philippe Besson. Il faut raconter comme on raconte une histoire, comme on raconterait à table, comme on raconterait à un ami, comme on raconterait à quelqu'un à qui on voudrait faire comprendre. C'est ça le but principal. Donc, raconter, c'est une trahison, déjà, de soi-même, de l'histoire qu'on raconte, enfin, de tout ce qu'on veut. Et en même temps, je crois que la plus grande des trahisons peut, dans un livre, cohabiter avec la plus grande des sincérités, et que c'est même ça qui fait les grands livres. Donc, évidemment que les deux vont ensemble.
Éric Renard.
Et le plus important, c'est de ne pas se trahir soi, quand on écrit.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester intègre, même lorsqu'on rencontre une difficulté. Parfois, on peut tenter de la contourner, mais on sait qu'en la contournant, on se trahira soi-même. Alors, il faut l'affronter. Parfois, ça dure des semaines. Et puis après, on trouve la solution et on avance. Et on est content d'avoir triomphé de cette difficulté en restant soi-même et sans se trahir.
Il y a une phrase dans le livre de Philippe Besson. Vous parlez de l'expérience de Paul et vous dites que c'est celle d'un homme qui doit dissoudre l'homme qu'il était pour devenir celui qu'il devait être.
Oui.
En quoi cette phrase, elle fait écho à votre propre trajectoire, Philippe Besson, d'écrivain et d'homme ?
J'ai eu la chance, si je puis dire, de comprendre assez rapidement là où me portaient mes goûts. J'en ai pas été catastrophé quand je l'ai compris, alors que j'étais pourtant jeune, parce que je me suis dit, chouette, enfin une singularité. Moi, j'étais un garçon très bien élevé, j'avais la raie sur le côté, j'avais des bonnes notes à l'école, je faisais la fierté de mes parents, enfin le truc, la tête à claque absolue. Et donc, du coup,
serre-tête et école Claudie.
la différence, la singularité, ça m'a plu. Je me suis dit, c'est formidable. Mais comme les animaux sentent le danger, j'ai compris à l'instant exact où j'ai compris ce qu'était ma sexualité, que le monde entier serait hostile, que le monde face à moi serait hostile, qu'il y aurait, dans le meilleur des cas, des sarcasmes, des moqueries, des colibés, et dans le pire, ce qui est arrivé, de la violence, un refus, un rejet, de la haine, etc. Donc il a fallu se cadenasser, il a fallu apprendre à mentir parfois, souvent, à jouer un rôle, parce que c'est celui qu'on attendait de moi. Voilà, faire semblant. pour se protéger, des autres. Et c'est compliqué de passer tant d'années comme ça à ne pas être soi, à ne pas être complètement soi. Et ça met du temps. Il faut à un moment finir par se dire... Mais ça a été pareil, si je puis dire, avec l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment, on comprend que c'est là, que c'est en nous, que c'est ça qu'on a envie de faire, puis on n'ose pas. C'est tellement un truc vertigineux. Et puis à un moment, on se dit, mais c'est ce qui me définit, c'est ce que je suis, c'est pas ce que je fais. C'est pas faire, écrire, c'est être.
Et ça n'a pas été facile de le faire comprendre à votre famille.
Non, ça n'a pas été facile. Quand j'ai annoncé effectivement à mes parents que je publiais mon premier livre, d'abord j'ai attendu le tout dernier moment, si je puis dire, parce que je savais depuis déjà plusieurs mois que j'allais le publier, j'ai attendu une semaine avant la publication pour leur remettre le livre. Et ma mère a tenu le livre entre les mains en étant persuadée que c'était une blague, une plaisanterie, que c'était un faux livre, que j'avais fait n'importe quoi, c'était une de mes fantaisies supplémentaires. Et mon père m'a regardé en disant « les emmerdements commencent ». Parce que pour lui, c'était dévié de la ligne dans laquelle je m'étais inscrite, de destin qui m'attendait. Et donc, c'était un peu terrible. Mais c'est vrai que c'était aussi une seconde naissance et une façon d'être enfin en phase avec soi-même. Mais ça prend du temps d'être soi.
En fait, une très, très belle transition, puisqu'on va parler dans un instant de votre travail d'écriture, à tous les trois, pour voir comment vous avez construit vos livres qui ont chacun à leur manière quelque chose d'hybride, je trouve.
Remonte un seul jour, remonte une seule fois, l'impression que toujours tu t'es là. Pour moi du chemin de croix, je crois. Remonte un seul jour, remonte une seule fois. Parle-moi d'amour, parle-moi de toi, remonte une seule fois. C'est un bien beau séjour, bien mérité, je crois. Nous prime cher, mais c'est toi que j'ai dans ma chair. Plus les lambeaux du temps jadis, d'un temps naguère. Remonte un seul jour, amour. Remonte une seule fois, amour. Parle-moi d'amour, amour. Remonte une seule fois.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Roma de Benjamin Biolay et nous sommes toujours en compagnie des écrivains Philippe Besson, Éric Reinhardt et Yasha Curis. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Éric Reinhardt, alors vous en avez un peu parlé tout à l'heure sur ce projet de la collection Manu au musée. Je voulais savoir comment ça s'était fait concrètement, parce qu'effectivement, c'est pas évident de répondre à une commande. Alors, vous nous avez expliqué que c'était que vous avez dû trouver en vous la solution, mais ça a mis combien de temps voilà, concrètement, comment vous y êtes pris?
Plusieurs mois. Mon choix s'était porté sur un premier musée. Elle avait dit oui, elle avait contacté le musée. Et puis, je cherchais un musée qui puisse me permettre de déployer une dramaturgie et presque une scénographie. Mais plus les mois passaient, moins je trouvais que c'était une bonne idée. Et plus ce désir d'écrire ce livre s'amenuisait jusqu'à ce déjeuner où je m'apprêtais à dire à Alina, écoute, je sais pas tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle a évoqué, en parlant du livre d'Aurélien Bélanger qui allait paraître quelques mois plus tard, elle a dit le Louvre. Et tout de suite, j'ai vu Hermaphrodite. Et voilà. Et je me suis dit, je vais entrelacer ces deux textes. Et je vais faire, alors, en effet, fabriquer une image. Et donc, quand cette idée est arrivée, elle est arrivée de la Galeria Borghese, elle est arrivée, entre guillemets, tout équipée. C'est-à-dire, je savais que j'essaierais de fabriquer cette image, et presque de fabriquer une œuvre d'art contemporain par l'adjonction de cet élément exogène en nylon industriel sur le rugueux romain et la pierre de la sculpture. Moi-même, m'introduisant dans cette œuvre pour faire une sorte de performance, je me disais que si je réussissais mon coup, ça pourrait être une très belle image. L'idée aussi d'écrire ma nuit au présent de l'indicatif et la fiction à l'imparfait m'est venue pendant le déjeuner, au même moment, tout dans cette idée, il y avait tout déjà. J'ai rien dit à Alina, je suis reparti, j'avais le cœur qui battait, c'était extraordinaire. À un moment, voilà, une espèce d'épiphanie comme ça, mais je ne lui ai rien dit. Et puis, c'est le lendemain que je l'ai appelé en disant « j'ai changé d'avis, je ne veux plus aller au Musée de l'Air et de l'Espace, mais à la Galeria Borghese ». Et dans l'idée de l'écrire au présent, ce livre, donc la ligne
partie musée,
c'est que vraiment, je voulais emmener mon lecteur, au plus profond de la nuit, avec moi, lui faire sentir physiquement le lieu, la nuit qui passe, le sommeil qui arrive, la présence des œuvres, la façon dont à un moment je me suis mis à dialoguer avec les œuvres, ce qu'elles m'ont communiqué, ce qu'elles m'ont appris. Et je voulais vraiment le partager parce que c'est une chance incroyable. C'est un musée inouï que j'aime depuis l'âge de 25 ans. C'est la première fois où j'y suis allé.
Comment vous avez choisi aussi les œuvres que vous avez mis dans le livre?
Comme lorsque je suis arrivé à la Galeria Borghese, j'ai tout de suite compris que ça allait être très difficile de faire ce pour quoi j'étais venu, à savoir fabriquer cette image et faire ce lit, puisque je ne devais pas toucher les sculptures, et cela m'a été signifié de la façon catégorique.
C'est très, très, très clair.
Et en précisant que je serai suivi dans tous mes faits et gestes par une dénommée Michaela, qu'on m'a présentée, et qui serait dans sa salle de contrôle avec toutes ses caméras, et que fallait
qui
pas
est au courant de tout.
Il ne fallait pas que je m'amuse à enfreindre les interdits qu'on m'aurait donnés, puisque de toute façon, je serais surveillé. Et là, ça m'a démoralisé. J'étais très angoissé quand les portes se sont refermées, et donc j'ai pris un Xanax, et après, je suis allé me mettre, pour déjouer cette angoisse, devant une sculpture, et je me suis dit, voilà, tu vas passer 2 heures devant Daphné Apollon. 2 heures. D'abord, il sera plus 21h, mais il sera 23h, c'est déjà ça de gagné. Parce que là, je me suis dit que la nuit allait être très longue. Et j'étais très intimidé par cette nuit. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas être au rendez-vous. J'avais peur de ne pas rentrer à Paris, dans mon bureau, avec un butin suffisant pour pouvoir écrire le livre. Or, ce livre serait intéressant, et ça je le savais, il ne serait intéressant que si il était écrit à partir de choses spécifiques que j'aurais éprouvées pendant la nuit. C'est-à-dire que si j'étais capable d'écrire ce livre avant même de l'avoir vécu, ou comme si je ne l'avais pas vécu, juste par rapport à ce qu'on peut s'attendre qu'on vit dans un musée, et on est écrivains tous les trois ici, on est tout à fait capable d'écrire une nuit au musée sans l'avoir vécu.
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais pour que ce soit vraiment fort, il faut l'avoir vécu et qu'il se soit passé des choses. C'est-à-dire, en soi, donc une modification d'un état intérieur, des idées, des pensées, des sensations qu'on note et qui ne sont liées qu'à cette nuit-là, qu'on a la chance de vivre, et éventuellement des choses extérieures dans le musée.
Mais est-ce que le fait de les provoquer, ces choses-là, est-ce que vous n'aviez pas peur que ça rende, que ce soit artificiel, enfin de se dire, j'ai une nuit, il faut qu'il se passe des choses?
Mais si, cette injonction à sentir, cette injonction à éprouver des choses pour pouvoir les écrire est un truc qui me paralyse.
C'est angoissant.
Je ne ferai pas d'analogie, mais il y a plein d'analogies possibles à oui, faire. Oui. Et donc...
Tout le monde a hoché la tête voilà. d'un air entendu.
Et donc, je me suis dit, je vais faire ce qu'on ne s'autorise jamais à faire dans les musées, c'est-à-dire passer vraiment du temps avec les œuvres. D'autant que j'étais seul, ce lieu, il est habité, il est magique, la Galerie Borghese, seul, la nuit. Et donc, à un moment, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, dans mon dialogue avec Daphné Apollon, il s'est mis à se passer des choses en moi. Et là, je me suis retrouvé dans un état qui m'est familier, que j'adore, qui est celui de l'écriture. Comme quand on écrit un livre et que ça se passe bien, et que ça sort, et qu'on est en phase avec soi-même. Et là, j'ai sorti un carnet et je me suis mis à noter des choses. Tout ce que m'inspirait cette œuvre, cette sculpture.
À avoir écrit dans Manu au musée, enfin, j'ai pas entendu tout le monde, j'ai pas lu tout le monde, mais de ceux que j'ai reçus et ceux que j'ai lus, qui a écrit pendant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui passent la nuit au musée ouais. et qui écrivent après.
Ben, j'ai écrit le récit après, mais j'ai pris des notes.
J'ai pris beaucoup de notes. Ouais.
Face aux œuvres, je voulais noter ce qu'elles m'inspiraient. Et Daphné Apollon, à un moment, c'est comme si la sculpture m'avait absorbé. C'est comme si je m'étais retrouvé au milieu de la scène et de la situation et que je voyais Apollon poser sa main sur la hanche de Daphné pour l'immobiliser, puis la violer, et celle-ci se transformant en laurier pour échapper au viol.
Il y a beaucoup d'histoires de viol, quand même,
viol.
Dans les sculptures de Le Bernard.
Il y a celle-là, ouais. Donc Daphné se transformant en végétal pour échapper à son poursuivant. Et aux sévices qui s'apprêtent à lui infliger. Il y a l'enlèvement de Proserpine, enfin l'enlèvement. Aujourd'hui, on dirait le viol de Proserpine. Oui. Et puis il y a Hermaphrodite. C'est-à-dire qu'Hermaphrodite, alors c'est peut-être, c'est à ma connaissance, on va recevoir des courriers d'auditeurs, le seul viol perpétré par une femme dans la mythologie et peut-être la littérature, enfin je ne connais pas. Et en tout cas, moi j'avais envie de réfléchir, enfin j'avais envie de faire miroiter cette figure d'Hermaphrodite avec toute cette équivoque qu'elle possède et qu'elle recèle pour confronter. Le lecteur et la lectrice à tout ce que ça éveille en elle ou en lui par rapport à la question du genre, par rapport à la question du féminin et du masculin, par rapport à la question de la sexualité et en particulier de l'hétérosexualité.
Et donc la perfection, puisque le titre c'est l'imparfait, la perfection ce serait cette complétude du féminin et du masculin réunis, cette réunion des deux, comment vous le définissez?
Ce que fait scintiller le livre vers la fin, c'est qu'en effet, l'imparfait n'est pas celui qu'on pourrait croire lorsqu'on voit le titre et le bandeau cohabiter sur mon livre. Donc ce n'est pas Hermaphrodite, avec son anormalité, entre guillemets, puisqu'il est hors... des normes physiologiques, mais Bruno, qui, lorsqu'il regarde le corps de Gloria, se sent, lui, imparfait.
C'est aussi un livre sur l'écriture, il y a de très belles pages. Vous écrivez un moment, c'est en ne se donnant aucune autre alternative que le salut par l'art ou le désir de mort qu'il faut écrire, en étant vis-à-vis de soi-même d'une mortelle intransigeance. Est-ce que ça veut dire que vous retravaillez énormément? Elle se matérialise comment, cette intransigeance?
Par la vérité que je sens en moi de l'impulsion et du mouvement vers l'écriture. Je ne peux pas tricher avec ça. Et donc, c'est vrai que envisager ma vie sans écrire est rigoureusement impossible. Donc, si c'est impossible, l'alternative, c'est la mort. Et je ne dis pas ça en rigolant, enfin, c'est vraiment des trucs qui m'habitent. Je peux vraiment traverser des moments de ma vie très, très difficiles où je longe vraiment le ravin lorsque je me dis que ça s'est tari en moi.
Et en même temps,
lorsque je me dis que le dernier livre que j'ai publié sera le dernier livre que j'écrirai jamais. Ce genre de choses qui me terrifie absolument au sens propre et qui fait que, j'entrevois la mort. Alors après,
une mortelle intransigeance, ça peut aussi vouloir dire que l'acharnement au travail...
Une fois que je suis dans le travail, oui, en effet, je suis du genre à vraiment beaucoup, beaucoup travailler. Je me relis énormément. Et voilà, je suis à la recherche d'une...
Est-ce qu'il y a quelque chose de mortifère là-dedans aussi?
Ah, pas du tout.
Philippe Besson, Yasha Curis, vous ressentez ça aussi? Vous avez ce plaisir, cette jouissance d'écrire, Philippe Besson?
Alors, moi, je m'en connais beaucoup dans ce que dit Eric. Oui, d'abord, il y a effectivement cette jouissance du moment où on trouve le livre. C'est-à-dire le moment où, tout d'un coup, il est là, il s'impose. Mmh. C'est-à-dire que la minute d'avant, il n'était pas là. Et la minute d'après, il est là, il est presque entièrement là. Enfin, on comprend ce qu'on va faire, on comprend ce qu'on va raconter. Alors, après coup, longtemps après, on voit tous les chemins qui ont amené à ça, toutes les choses souterraines qui nous ont permis d'arriver à cet instant de la révélation. Mais la révélation, ça, c'est extraordinaire. Je trouve ça formidable. Après, effectivement, quand on s'engage dans l'écriture, le début est un peu laborieux parce qu'il faut s'y remettre et on se dit ça va être épuisant, compliqué, les possibles sont trop nombreux. Bon, voilà. Et puis ça se referme petit à petit, mais c'est tellement fécond, c'est tellement fertile, c'est tellement joyeux, c'est tellement jubilatoire, même quand on écrit des histoires épouvantables. Hein. Et d'ailleurs, surtout quand on écrit des histoires épouvantables. Et puis quand on arrive à son terme, oui, on se dit voilà, je l'ai fait, j'y suis arrivé, il y a quelque chose là aussi de très jubilatoire. Mais c'est vrai que ça, le livre aussi nous gouverne à un moment. C'est-à-dire qu'il va là où il veut, la décide d'aller. C'est presque lui qui décide des choses et plus nous. Et donc là, on se laisse faire et c'est absolument merveilleux.
En tout cas, j'ai écrit L'imparfait dans une grande allégresse.
Mais ça se sent. Ça se sent. On le sent.
D'ailleurs, c'est un livre qui est aussi plein d'autodérision. Enfin, c'est un livre drôle
oui,
aussi.
Oui,
enfin, moi, j'ai ri dans ce livre. Je trouve... Non, mais c'est vrai. C'est... Non, mais les costumes et tout ça, les verres de vin, tout ça, ça fait plein de scènes qui sont extrêmement drôles.
C'est venu presque par comme ça, sans que je le veuille.
Yasha Curis, j'aimerais qu'on entre plus en détail dans votre dernier livre. Et puis, ils sont allés danser. Mais d'abord, on écoute Sam Sauvage, Le langage de l'amour.
Cela n'engage que moi, mais vous ne trouvez-vous pas vrai qu'il ne faut pas toujours parler pour mieux s'entendre et s'écouter? Plus il y a de silence et plus il y a de bruit, tout en élégance et preuve à l'appui. Quand je serre le corps de ma bien jolie, j'entends les accords d'un cœur attendri. Hein. L'amour est un langage parfait dont les gens ne retiennent que les faits. Il faudrait pouvoir se déduire, sans pour autant tout se dire, tout se dire. Des mains serrées dans des mains, des yeux fermés dans des seins, des baisers qu'on étire, parfois jusqu'au lendemain. Des mots d'amour qui s'écrasent, avant même la fin de ta phrase. Des mots qui ne disent rien, des mots dont on n'a pas besoin. Plus il y a de silence et plus il y a de rire, tout en évidence et sans faire mourir. Tous ces petits riens qui nous font sourire, si on le sait bien pourquoi se le dire. L'amour est un langage imparfait dont les gens n'entendent que ce qui leur plaît. Il faudrait pouvoir se traduire, mais ce serait pire. Pire. Cela reste entre nous, mais je ne sais pas si vous savez. Toujours aussi compliqué de vous parler sans s'égarer dans des silences qui font trop de bruit, qui nous éloignent, qui refroidissent nos corps et qui nous trahissent, sans qu'on puisse dire que des lèvres posées sur nos joues froissées par les égos suffisent à se faire du bien sans se dire un mot. Des mots d'amour qu'on arrache sans même qu'on s'y attache, des mots qui me disent rien, des mots dont on se passerait bien. Plus il y a de silence et plus moi je vis, tout en imprudence et sans rien prédire. Quand je sors le corps de ma bien jolie, j'entends les accords d'un cœur à chérir. L'amour est un langage parfait que je n'ai jamais su bien danser, mais je crois que je peux l'écrire si tu veux le lire.
Bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie des écrivains Philippe Besson, Éric Reinhardt et Yasha Curis. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Lilia Hassen, au livre Etc.
Et mon conseil de lecture de cette semaine, c'est donc votre livre, Yasha Curis. Et puis, ils sont allés danser. Le livre est librement inspiré d'un fait divers survenu le 24 décembre 2010. L'assassinat à coups de marteau et de couteau d'un journaliste renommé. Place Saint-Sulpice par un jeune marginal avec la complicité du fils de ce journaliste. Et je me demandais, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à un fait divers plutôt qu'à un autre? Qu'est-ce qui a résonné chez vous dans cette histoire particulière?
Moi, ça faisait un certain nombre d'années que j'avais envie d'écrire un livre sur le rapport père-fils. Et je me heurtais à une impossibilité que je ne comprenais pas, qui est certainement due à mon propre rapport avec mon père, ou en tout cas, voilà, une impossibilité. Chaque fois que j'essayais, je me plantais.
C'est ce que j'allais vous dire, il l'a pris comment, votre livre?
Heureusement qu'il
Il est tranquille avec cette histoire, votre père?
J'ai la chance de venir d'une famille un peu de cirque. Tout le monde fait des films, tout le monde fait des choses. Donc, il y a cette ouverture d'esprit. On se laisse le droit de faire feu de tout bois. On n'a pas le droit de s'interdire. Ça, c'est quelque chose de tacite, mais de su entre nous. Alors, il l'a pris avec humour, il m'a appelé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu veuilles me découper en morceaux et me tuer à coups de marteau ?» J'ai dit « Écoute, non, là, tu vas pas me faire ça, c'est un fait divers. Non ! Je sais bien ce que tu as voulu dire. » Non, il était évidemment un peu troublé. De toute façon, il est troublé par mes livres. Je parle que de drogue, de sexe, de meurtre. Donc
c'est une grande liberté aussi, c'est une preuve de confiance.
Absolument, et je crois qu'il est autant... étonné, fasciné quelquefois, il me regarde un peu comme un drôle de truc.
D'oiseau.
Ce qui explique peut-être ma difficulté à écrire sur ce rapport-là. Reste qu'il était important pour moi de trouver un angle. Je ne le trouvais pas, cet angle. Et tout d'un coup, cette affaire, on m'en avait parlé, on m'avait suggéré, j'étais tellement proche en âge du meurtrier, et puis du fils du journaliste, j'étais tellement proche géographiquement, il y avait quelque chose qui semblait peut-être logique. Et moi, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt dans mon art, dans mon travail, dans ma maturité d'écrivain à m'emparer de ça. Et tout d'un coup, on parlait de cette épiphanie, de cette évidence. Je cherchais comme on cherche un sujet. Et comme un boomerang, m'est revenue cette histoire. Et sur Google, je suis allé rechercher les articles. Et ce qui m'a frappé, c'était le manque d'explications. C'est-à-dire que je tombais sur des articles, et des articles, des dizaines d'articles, de journalistes qui rapportaient l'affaire, le procès, ce qu'avaient dit les avocats, les plaidoiries. Et personne ne semblait pouvoir expliquer ce qui avait poussé ces deux jeunes hommes, ce soir de Noël, à commettre un acte aussi irrémédiable, violent, terrifiant. Et tout d'un coup, je me suis dit, si personne, psychiatre, avocat, personne ne peut, peut-être que la littérature a ce pouvoir-là de venir relier les points entre eux et comprendre cette dérive de quelques mois qui a entraîné au pire.
Justement, sur cette question de l'explication, j'ai envie qu'on parte en Suisse retrouver Alexandre Dimitrievitch de la librairie Delphica à Genève. Bonjour Alexandre.
Bonjour tout le monde.
Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, particulièrement dans son roman ?
Oui, ce qui m'a frappé, c'est cette matérialisation de la rancœur qui traverse ces deux garçons et qui va les attirer l'un à l'autre dans une sorte de danse nocturne étourdissante. Moi, j'ai aimé la description que vous nous faites de ce mauvais sentiment, car dans votre roman, il s'auto-alimente avec beaucoup de naturel dans ce qui s'apparente peu à peu à une relation d'emprise. Et cette emprise, elle est d'ailleurs présentée comme mutuelle et elle vient bousculer nos idées préconçues sur la nature de ces liens.
Et ce qui vous a troublé, Alexandre, c'est justement de ce dont on vient de parler. Le roman est tiré d'un fait divers. Et pourtant, il y a des passages où vous vous êtes demandé si ça allait assez loin dans l'explication.
Oui, voilà, vous l'avez évoqué juste avant, mais j'ai quand même malheureusement regretté de ne pas saisir plus clairement les ressorts profonds de ce désir de violence. En refermant ce livre, je me suis demandé quelles étaient au fond les véritables raisons qui pourraient pousser celui qui fantasme la vengeance à passer à l'acte. Alors il y a une rupture amoureuse, il y a le vol d'un scooter, un regard de travers, et je me suis demandé si c'était vraiment suffisant pour rendre un tel engrenage pleinement vraisemblable. Et puis, à vrai dire, en fait, j'en sais rien, le monde il est vaste. Mais pour ma part, j'aurais aimé que cette bascule soit peut-être davantage fouillée. Et toujours au chapitre de cette vraisemblance, j'avoue avoir été surpris par l'absence quasi totale des réseaux sociaux. Bon, malgré une ou deux références, cette absence m'a tenu un peu à distance du texte,
alors,
je dois dire.
Je vous arrête une minute, Alexandre, parce que c'est intéressant. C'est quoi le moteur de la violence dans le livre, selon vous, Yasha Curis?
D'abord, je réponds, les réseaux sociaux n'existaient pas pendant l'affaire qui s'est passée en 2010. Donc, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, donc j'ai respecté ça. Et je vais répondre. Moi, il n'y a pas de réponse. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai une référence de cinéma qui me vient à l'esprit. Je voulais écrire ce livre comme on écrirait un film de Gus Van Sant. Et dans Elephant, il n'y a pas d'explication de pourquoi il finit par dans Paranoïde
Park. Oui, en fait, c'est du ressenti. Ouais,
voilà. Et l'explication que je pourrais donner, s'il y en avait une, toutefois, ça serait celle de dire c'est la rencontre d'un jeune homme qui vient d'un endroit de grande souffrance, Jim, qui est né à la campagne, qui est arrivé à Paris dans des circonstances assez difficiles et qui, lui, ne connaît pas son père. Et puis, on a une autre définition de ne pas connaître son père, celle d'un petit bourgeois dont le père ne s'est pas occupé de lui. Et tout d'un coup, ce petit bourgeois va donner en sacrifice son père à celui qui est vraiment en colère contre le père absent réellement. Et pour moi, vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir compris pourquoi ce meurtre. Personne n'a compris, ni au procès, ni c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris beaucoup d'années de prison, d'ailleurs.
Oui.
Mais moi, j'ai trouvé la source et mon explication la plus probable. Elle est dans l'idée sacrificielle, presque d'une manière légère, d'un jeune homme qui donne à un ami son père en sacrifice pour assouvir ses pulsions.
À la fin du livre, vous écrivez... Léo se dit qu'il est en face d'un monstre et soudain il comprend leur amitié, leur pacte. Trop tard, il comprend la colère de Jim qui s'est précipité sur un père de rechange par une sorte de contamination, la violence de Jim qui s'est télescopée avec le malheur de Léo.
Mais c'est exactement ça, c'est tout d'un coup cette amitié qui a l'air au début d'être une sorte de... Et qui l'était, je crois, une sorte de décadence à deux, on va pousser, on va sortir, on va plus avoir de règles, on va abolir, on va vivre la nuit... Tout d'un coup, cette histoire va basculer dans le sordide, mais de manière assez... moi, je suis assez content qu'on ne comprenne pas bien. Je trouve qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je voulais simplement, comme on installerait une caméra et qu'on pose, voilà, on regarderait des personnages évoluer dans ce Paris hivernal, enneigé, nocturne, et dire qu'est-ce qui s'est passé pendant les mois qui ont précédé quelque chose qui, pour le coup, est arrivé.
C'est super, ça vous donne l'occasion en tout cas de répondre. Et Alexandre, je crois qu'il y a une chose qui vous a vraiment plu, c'est l'exploration violente des rapports père-fils.
Alors, j'ai aimé le roman parce qu'il explore aussi des thèmes intéressants, donc cette entre deux âges qui est l'adolescence. En fait, ce moment où la différence d'âge, elle compte tant et où l'on cherche sa place et où l'on règle ses comptes symboliques avec la figure du père. Et d'ailleurs, c'est sans doute le portrait du père qui m'a le plus convaincu. Vous dessinez une figure écrasante, autocentrée, davantage amoureuse d'elle-même. Je l'ai trouvé très réussi, car vous le présentez avec toutes les ambiguïtés qui caractérisent un homme. Et au fil des pages, on voit bien comment le sentiment de son fils à son égard va évoluer. Car oui, les vieux vieillissent, leur mythologie s'estompe et ils deviennent faillibles. On se rend compte, grâce à quelques belles impressions, que les pères saignent aussi.
Vous vouliez réagir, Yacha ?
Oui, c'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui, poussé par les circonstances, sa mère le chasse de chez lui, il est viré de son école, ses copains le trouvent infréquentable, sa fiancée se sépare de lui, se retrouve à vivre avec un inconnu chez son père. Et il n'est plus un enfant, c'est un jeune homme. Et il arrive chez un homme qui n'est plus tout à fait un homme, qui devient un vieil homme. Et cette confrontation de ces deux fauves dans ce petit huis clos de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Sulpice, va prêter va emmener vers une pente absolument inexorable.
En fait, cette question invraisemblable, c'est vrai qu'elle traverse le livre, mais je trouve que c'est ce qui fait aussi son intérêt, c'est-à-dire qu'effectivement, après cette scène de meurtre atroce, ils vont danser.
Bah oui.
Et en fait, il y a quelque chose de...
C'est ça qui m'a le plus frappé quand vous me demandiez pourquoi je suis revenu à cette histoire. C'était, je découpais dans ma tête comme ça, de manière un peu obsessionnelle, l'histoire en trois parties. Je disais, alors, le soir de Noël, ils sont sortis, le fils est revenu, a trouvé un stratagème pour justifier qu'un ami allait passer. L'ami est passé, il a tué le père, il a pris la carte de crédit, ils ont retiré de l'argent et ils sont allés en boîte de nuit. Et moi, à chaque fois, je me répétais, mais c'est pas possible. Et au lieu de me dire c'est pas possible comme un idiot, bah, essaie de comprendre, essaie de voir ce qui s'est passé, essaie d'analyser, essaie de voir comment on en arrive là, comment on devient un monstre. On ne naît pas un monstre.
Et ça donne. Et puis ils sont allés danser. Donc merci Alexandre, merci à tous les trois, Philippe Besson, Éric Reinhardt et Yacha Curis. C'est la fin de cette émission. Je recommande vivement vos livres, Une pension en Italie de Philippe Besson, publié chez Julliard, un récit solaire et mélancolique sur l'émancipation et le courage d'être soi sous la lumière écrasante de la toxicité. Roxane. Ça fait toujours beaucoup de bien de vous lire. Je recommande aussi votre livre, Eric Reinhardt, L'Imparfait, publié chez Stock, une expérience sensorielle et baroque à la Villa Borghese, où le temps se dilate pour laisser place à une magnifique réflexion sur l'hybridation des genres et la puissance de l'image. C'est passionnant, foisonnant, extrêmement bien écrit. Et enfin, pour cette conclusion de voyage un peu à part, Et puis ils sont allés danser, de Yasha Curis, publié chez Gallimard, un roman qui nous plonge dans une virée nocturne et tragique, qui en dit long, je trouve, sur la manière dont on cherche parfois à s'effacer du monde. Merci enfin à nos libraires du jour, Mike Viennot, Alexandre Dimitrievitch, ainsi qu'à mon équipe, Lignon Allôme à la réalisation, Thilaï Ravout à la technique, ainsi qu'à Estelle Gap et Tel Azial à la programmation. Je rappelle que Livre etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.